Sermon de M. Gerald Weston, où il sera question de foi, de prudence et de gouvernement. Salutations à vous tous. Il est très agréable d'être ici et de parler simultanément à beaucoup d'entre vous ailleurs dans le monde. Ceux qui ne peuvent pas entendre ce message en direct recevront un enregistrement, voire une traduction plus tard. En effet, le fait d'avoir tous ces fuseaux horaires fait que, pour certains, ce message leur parviendrait au milieu de la nuit. De plus, nous offrons aussi des services dans d'autres langues, l'espagnol, le français et l'allemand, et ces messages devront donc être traduits pour certains de nos frères d'ailleurs. Permettez-moi de mentionner deux ou trois choses avant de débuter ce sermon. Hier, nous avons tenu une réunion virtuelle. C'était pour marquer le 55e anniversaire de l'ordination de M. Richard Ames. Je ne crois pas qu'il s'attendait à cela, mais il était en ligne avec nous tous, le personnel du bureau, certains des directeurs régionaux et quelques autres personnes invitées. Nous avons ainsi pu le féliciter et raconter quelques histoires intéressantes. Par la suite, plus tard dans la journée, nous lui avons fait parvenir un panier de friandises. Ce fut pour nous tous un moment très agréable, une source de joie. Un changement de rythme qui fait du bien. J'aimerais également féliciter la congrégation de Des Moines dans l'État d'Iowa pour son 25e anniversaire. C'était un jour qui figurait à mon calendrier. J'étais censé leur envoyer quelque chose ou visiter la congrégation à cette occasion. Cependant, à cause de tout ce qui s'est passé récemment, tout cela a finalement été éclipsé. Il n'en reste pas moins que c'est le 25e anniversaire de cette congrégation qui avait relancé l'Église après l'apostasie qui s'était produite dans l'Église universelle. Alors, félicitations à vous tous qui êtes de la congrégation de Des Moines. J'y ai servi pendant environ 6 ans. Cela fait 19 ans que j'y ai servi. Et je pense que j'y suis retourné au moins une fois depuis. Bien sûr, entre-temps, ils ont connu des changements. Certaines personnes sont décédées ou ont déménagé ailleurs. Donc, félicitations à cette congrégation, de même qu'aux autres congrégations qui ont dû redémarrer à peu près à la même époque. Frères et sœurs, vous vous êtes probablement rendu compte qu'il y a eu un petit contretemps. On vient de signaler à M. Weston que tout à l'heure, il avait mentionné qu'on avait célébré cette semaine le 25e anniversaire de l'ordination de M. Richard Ames. Or, il aurait dû dire plutôt le 55e anniversaire de l'ordination de M. Richard Ames. Voilà. Vous avez noté évidemment que je l'avais déjà corrigé au départ. Il existe une malédiction chinoise. Du moins, elle a été attribuée à la Chine. Elle s'énonce comme suit. Puissiez-vous vivre à une époque intéressante? Une belle façon de dire que vous êtes sous l'emprise d'une malédiction. Pas sûr cependant que cette expression provienne réellement des Chinois. Certains diplomates du Royaume-Uni ont fait usage de cette expression et ont prétendu que c'était bien le cas, mais je n'ai pu trouver aucun document qui l'attesterait. Il n'empêche que c'est tout de même une déclaration intéressante et communément utilisée au Royaume-Uni et même ailleurs. Puissiez-vous vivre à une époque intéressante. Cela dit, nous vivons certainement à une époque intéressante, pas seulement parce qu'elle serait liée à une malédiction, mais aussi parce que c'est une époque encourageante pour le peuple de Dieu qui voit que la prophétie avance. Une pandémie ne prouve pas nécessairement que la fin est proche, mais les ramifications de cette pandémie, à savoir le gel de l'activité économique sur le plan mondial, ainsi que les effets géopolitiques potentiels de celle-ci dans un monde moderne, doté d'armes nucléaires et de moyens de transport comme ceux que nous avons, tout cela peut avoir de profondes répercussions sur notre monde actuel. Ce sont là des considérations intéressantes à plusieurs niveaux, mais j'aimerais souligner quelque chose que vous aurez l'occasion de lire bientôt. J'ose espérer que vous avez l'habitude de lire toutes nos publications, notamment nos magazines, Le Monde de Demain et Le Journal. Ainsi, l'édition du Monde de Demain de juillet-août 2020 contiendra cet article que j'ai écrit sous le titre en pleine tempête. C'est que lorsque nous regardons le monde tout autour de nous, ne voyons-nous pas qu'une parfaite tempête d'événements se profile à l'horizon? C'est là une expression qu'emploieront des météorologues lorsqu'ils verront diverses tempêtes conjuguer leurs efforts pour créer des super tempêtes. Il y a même un livre qui a été écrit sur le sujet, suivi peu après d'un film portant le même nom, The Perfect Storm, la tempête parfaite, un terme qui fait maintenant partie de notre langage courant, du moins dans nos nations occidentales, lorsqu'on parle d'un certain nombre d'événements qui convergent. Ainsi, prenons l'exemple de l'Union européenne, qui était déjà soumise à de très fortes pressions, en particulier avec le vote du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, le Brexit, comme il a été appelé en 2016. Comme on le sait, le 31 janvier de cette année, ils sont finalement sortis de l'Union européenne. Même s'il leur reste encore une année pour négocier les termes de ce retrait, le fait demeure qu'ils sont sortis de l'Union européenne, ce que nous avions prédit depuis déjà de nombreuses décennies. Nous n'étions peut-être pas sûrs qu'ils sortiraient de l'Union européenne, mais nous savions qu'ils ne feraient pas partie des 10 dernières nations. De fait, il n'y a pas que les Britanniques qui étaient mécontents de l'Union européenne. Les Néerlandais et d'autres pays ont aussi tenu des référendums à ce sujet. Et notez que la majorité des personnes consultées lors de ces référendums ont exprimé le même désir de se retirer de l'Union. Cependant, leurs gouvernements respectifs n'ont pas reconnu les résultats de ces référendums et n'ont pas cru bon d'agir, au contraire du Royaume-Uni qui a donné suite à la recommandation du peuple. Il y avait donc déjà passablement de mécontentement à l'intérieur de l'Union européenne. Certains des événements qui s'y déroulaient étaient de nature économique. Pensez à la situation en Grèce et même ailleurs. Les pigs, comme on les appelait alors, le Portugal, l'Italie, l'Irlande, la Grèce et l'Espagne, ces pays étaient tous en difficulté financière et causaient beaucoup de problèmes au sein de l'Union. Mais ce n'était pas tout. L'Union était aussi confrontée au problème des immigrants qui envahissaient l'Europe. Oh, ce n'était pas une invasion hostile, dans le sens où ils arrivaient avec des armes. Non, c'était des gens qui luttaient simplement pour survivre et pour jouir d'une vie meilleure. Néanmoins, comme ils arrivaient par millions, cela a provoqué beaucoup de mécontentement au sein de l'Union européenne. Mécontentement qui provoqua beaucoup d'euroscepticisme, une montée des partis de droite, tels que l'AFD en Allemagne, ainsi qu'une montée du nationalisme en Europe. Hélas, alors même que les Britanniques se retiraient, et que tout le monde se demandait ce qui allait se passer, quel serait l'effet du Brexit sur le Royaume-Uni, quel serait l'effet sur l'Allemagne et les autres nations d'Europe, voilà que le Covid-19 entre en scène. La tourmente à propos du Brexit n'a-t-elle pas été reléguée au second plan à présent? Notez encore une fois comment toutes ces choses se sont produites en même temps. Alors que nous venions tout juste de nous extirper du problème causé par le Brexit, le 31 janvier, voilà que nous entendions parler de ce virus émanant de Wuhan, en Chine. À la mi-février, la situation était déjà devenue grave. Pour vous montrer la rapidité avec laquelle ce problème a évolué en peu de temps, j'avais atterri à Bangkok, en Thaïlande, le 16 février. Le même jour, un avion en provenance de Wuhan avait lui aussi atterri à Bangkok. C'était un dimanche, et déjà jeudi, pratiquement tous les vols en provenance de Chine avaient été annulés. Donc, encore une fois, tout s'est passé très rapidement, 2 semaines seulement après le Brexit. Le 3 mai 2018, il y a donc approximativement 2 ans, le magazine Time publiait un article intitulé « L'ère des hommes forts est arrivée ». Voici ce que cela signifie pour vous. Il dressait alors une liste de certains hommes forts qui commençaient à se manifester sur la scène mondiale. Des hommes qui s'étaient attiré la réputation d'être des solutionnaires de problèmes. Oh, ils avaient beau être affligés de divers problèmes personnels. Lorsqu'il s'agissait de solutionner certains problèmes de l'heure, il s'était malgré tout taillé une certaine réputation. Parmi eux figuraient bien sûr Donald Trump, mais aussi Vladimir Poutine, Xi Jinping, Recep Erdogan de Turquie, Viktor Orban de Hongrie et Rodrigo Duterte, ce dernier étant assurément un homme fort intéressant et coloré. Je ne pense pas qu'il se considérait comme un personnage haut en couleur. Il était simplement un solutionnaire de problèmes là-bas, aux Philippines. Leur pays connaissait alors un terrible problème de drogue, et il l'a résolu en faisant simplement ce dont il est question dans le livre d'Esther, en livrant les auteurs du crime à la population locale. Si vous êtes un trafiquant de drogue, vous allez tomber dans le collimateur des groupes d'autodéfense. C'est ainsi que des trafiquants de drogue se sont livrés d'eux-mêmes à la police afin de se protéger de ces groupes d'autodéfense. Ils ont choisi la prison lorsqu'ils ont compris que leur vie était en jeu. Nous pouvons être en accord ou non avec de telles pratiques, mais pour ma part, cela me fait penser un peu au livre d'Esther. Au départ, les ennemis des Juifs avaient eu la possibilité de s'en prendre aux Juifs, et puis les choses ont évolué dans le sens contraire. Comme il est dit, rien de nouveau sous le soleil. On peut être d'accord ou non avec ce genre de déroulement, mais une chose est sûre, cela a permis de réduire grandement l'abus de drogue aux Philippines. Nous avons donc ces dirigeants qui se lèvent, ces hommes forts qui sont capables de résoudre les grands problèmes de l'heure, et les gens vont se tourner vers eux, quitte à devoir renoncer à certaines de leurs libertés. Et il est vrai que nous vivons dans un monde très dangereux. Cependant, nous ne voyons pas encore sur la scène politique cet individu qui saura résoudre les problèmes qui affligent l'Europe en cette fin de l'âge. J'espère que vous lirez ou relirez nos brochures intitulées « La bête de l'Apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir » et « Le mystère révélé de l'Apocalypse », des brochures qui nous montrent clairement vers où notre monde se dirige. En Australie, ils ont connu de graves sécheresses pendant environ 7 ans, puis des inondations qui ont tué près de 600 000 bovins. Après cela, la terre s'est asséchée et ils ont connu l'été le plus chaud et le plus sec jamais enregistré, avec pour résultat de terribles incendies qui ont décimé ce que l'on estime à 1 milliard d'animaux sauvages, koalas, kangourous, etc. Une période terrible. Et finalement, comme si cela ne suffisait pas, voilà que s'ajoute encore le Covid-19. Il est vrai que l'Australie n'a pas subi autant de morts et de destructions à cause du coronavirus, mais elle en a tout de même souffert économiquement. Toutes ces choses continuent de nous arriver l'une après l'autre. L'Afrique de l'Est, comme cela a été souligné dans l'une de nos publications, a beaucoup souffert et souffre toujours d'une invasion de criquets pèlerins. Et je dois avouer que lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois, je n'ai pas été conscient de l'ampleur du problème, car nous sommes habitués au fait qu'il y ait périodiquement des invasions de criquets ici ou là. Cependant, celle-ci est l'une des plus graves depuis des décennies, et elle cause la destruction des récoltes de nombreux agriculteurs. L'impact de ce fléau s'est fait sentir dans toute l'Afrique de l'Est, puis au Moyen-Orient, au Yémen, probablement aussi en Afghanistan et jusqu'au Pakistan. Et nous n'avons pas encore vu le pire. Oui, le pire est encore à venir. On nous annonce en effet une deuxième vague, et selon les estimés des experts, celle-ci pourrait causer 20 fois plus de destruction que la première. À cela s'ajoute la pandémie de Covid-19 qui verrouille tout, et qui nous empêche par le fait même de réagir au problème. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, voilà que nous arrive une inondation massive de proportions bibliques. Au total, ce sont près de 300 millions de personnes qui sont touchées par les fléaux combinés de ces criquets pèlerins et par les inondations de cette partie de l'Afrique. Cela équivaut presque à la population des États-Unis. Pensons à ces événements qui se déroulent dans le monde. Ainsi, nous avons toutes ces émeutes ici aux États-Unis. Minneapolis, par exemple, a connu sa 4e nuit d'émeute semant la destruction dans cette ville. Vous savez, cela ne revêt plus le caractère d'une protestation, c'est une émeute, et elle s'étend à d'autres villes des États-Unis. D'accord, ce qui s'est passé là-bas, c'est horrible, incroyable. Les gens l'ont suivi sur YouTube et à la télévision. et il est clair que quelque chose a terriblement mal tourné avec ce policier et ses collègues qui étaient là. Personne ne peut justifier ce qui s'est passé, mais de là à causer une telle dévastation dans cette ville, était-ce justifié? Vous savez, souvent les débordements qui s'observent en pareil cas sont l'œuvre de non-résidents, pas des gens qui cherchent à comprendre ce qui s'est réellement passé. Ceux-là sont plus intéressés à fomenter des émeutes, à se livrer au pillage et à créer le chaos. Je me suis laissé dire qu'il y a même des gens en coulisses qui financent de telles manifestations. Antifa est le nom d'un de ces groupes qui a connu récemment une certaine notoriété. Tout cela déchire notre société en plein milieu de cette crise de COVID-19, alors que plus de 40 millions de personnes ont été mises au chômage, rien qu'aux États-Unis. Les statistiques sont probablement aussi décourageantes dans d'autres pays. Nous voyons toutes ces choses déferler sur nous en même temps, et cela à une époque où les valeurs divines sont bafouées, piétinées et rejetées. Les gens violent la loi de Dieu en toute impunité, et ils n'en éprouvent aucune honte. Au contraire, ils ressentent une certaine fierté dans la destruction des valeurs bibliques, ou disons leur rejet, car on ne peut évidemment pas détruire les valeurs bibliques. Nous avons donc toutes ces choses qui déferlent sur nous simultanément. Certains parlent du COVID-19 comme de l'apparition d'un signe noir. C'est aussi ce que l'on pourra lire dans l'article « En pleine tempête » de l'édition du Monde de demain de juillet-août 2020. Un événement de type « signe noir » est un événement qu'on pourra qualifier d'imprévisible, un événement qui dépassera nos attentes et qui aura des répercussions potentiellement graves. Les événements de type « signe noir » se caractérisent par leur extrême rareté, leur impact sévère et la réalisation en rétrospective que leur apparition aurait pu être prévue. N'est-ce pas en effet ce que l'on aurait pu prédire après avoir observé l'humanité rejeter Dieu et ses enseignements si longtemps? Voilà pourquoi Dieu permet à présent à toutes ces choses de s'abattre sur nous. Aujourd'hui, je vais discuter de trois principes bibliques que nous devrions considérer conjointement, car ils affectent les décisions que nous avons prises concernant les services religieux à l'occasion du sabbat et des fêtes, de même que les décisions qui devront être prises à l'avenir. Et ces trois principes ou doctrines qui nous viennent de la Bible sont la foi, la prudence et l'obéissance à l'autorité gouvernementale. Je répète, la foi, la prudence et l'obéissance à l'autorité gouvernementale. Cela dit, comme nous le savons tous, nous avons choisi de tenir nos services religieux par le biais de la retransmission en ligne, comme nous le faisons actuellement. Nous avons choisi, pour l'instant et pour un temps que nous espérons le plus court possible, de cesser de nous réunir en groupe et, plus encore, de chanter, alors qu'une personne asymptomatique et porteuse de la maladie pourrait être parmi nous et transmettre le virus à quantité d'autres personnes. Nous avons pris cette décision en l'absence de tous les faits associés à cette malédiction, mais nous devions prendre une telle décision. Celle-ci n'a pas été prise par une seule personne, mais par le Conseil des Anciens, et après diverses consultations auprès de plusieurs ici au siège social. C'est là la décision à laquelle nous sommes parvenus. Elle a été motivée par un souci de prudence et d'obéissance aux autorités gouvernementales que Dieu a établies sur le monde actuel. Pour cela, nous nous sommes basés sur un principe des Écritures, qu'on trouve notamment dans Proverbes chapitre 22, verset 3. Voyons-le, Proverbes 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Ce même principe est encore mentionné dans Proverbes 27, verset 12. Et quand Dieu répète quelque chose, c'est généralement un principe très important. Nous utilisons aussi le proverbe qui dit que « telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort ». C'est dans les Proverbes 14 au verset 12 et 16 au verset 25. À nouveau, comme déjà mentionné, quand Dieu répète quelque chose, c'est que, pour lui, c'est un principe auquel il attache beaucoup d'importance. Pas étonnant donc que nous ayons souvent fait allusion à ce principe, à savoir qu'il y a une voie qui paraît droite à un homme, mais qu'elle mène inéluctablement à la mort. Oui, il y a une voie qui semble juste dans de nombreux cas, lorsque nous nous fions à notre compréhension humaine des choses. Nous avons également abordé le principe qui est énoncé dans Romains 13, verset 1. Voyons-le rapidement. Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Bon, nous savons tous que les autorités gouvernementales n'ont pas toujours agi en toute justice. En fait, elles n'ont presque jamais pratiqué la justice selon la voie divine. Néanmoins, il est bien dit ici qu'il nous faut nous soumettre à l'autorité en place. En écrivant cela, Paul s'adressait spécifiquement aux chrétiens de Rome, lesquels étaient sous la domination romaine. Les Romains qui les gouvernaient étaient-ils meilleurs que les gouvernements actuels? Je ne le pense pas. Nous pouvons parfois en avoir qui sont pires et d'autres qui sont meilleurs. Cependant, quand on considère à qui Paul a écrit ceci, c'est là toute une déclaration. Il y dit en substance, verset 1, « Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » C'est pourquoi, verset 2, « Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Maintenant, je sais qu'il y a ceux qui contestent les Écritures sur ce point, particulièrement lorsqu'ils considèrent toutes les atrocités qui ont été commises par certains dirigeants que Dieu a mis en place pour diverses raisons. Peut-être que certaines nations méritent le genre de dirigeants qu'elles ont. Je pense que toutes les nations le méritent dans un sens, en particulier nos nations occidentales. Après tout, n'est-ce pas nous qui avons voté pour eux? Nous méritons donc ce que nous obtenons, que ce soit en bien ou en mal. N'est-ce pas dans Daniel que nous lisons que Dieu place parfois au pouvoir le plus vil des hommes? Toujours est-il que l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, déclare que ce n'est pas pour une bonne action que les magistrats sont à redouter, mais pour une mauvaise. Et c'est bien vrai. La plupart du temps, si nous obéissons aux lois, nous avons très peu de raisons de nous inquiéter. Ce n'est pas toujours vrai, certes, et nous savons que les apôtres ont été persécutés par les autorités en place pour la seule raison qu'ils obéissaient à Dieu. Nous comprenons cela, mais ici nous parlons bien sûr de façon générale. Nous devons être capables de faire preuve d'un bon discernement dans ces domaines. Paul poursuit au verset 3 disant « Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation. » Au moins dans notre monde occidental, en règle générale, lorsque nous faisons ce qui est bien, nous avons très peu à craindre. Cela s'applique aussi à d'autres parties du monde, parce que la plupart des dirigeants ne vont pas simplement se mettre à tuer tout le monde. Sinon, il n'aurait plus personne sur qui régner. Cela dit, nous savons qu'il y a des endroits où les dirigeants peuvent se comporter en tyrans impitoyables. Mais, dans l'ensemble, il n'en est pas ainsi dans notre monde occidental. C'est pourquoi nous lisons au verset 4, « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains. » Évidemment, si vous êtes un criminel, si vous êtes un trafiquant de drogue ou un voleur, craignez, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Vous savez, même les événements regrettables de cette dernière semaine ne remettent pas en question les avantages que nous apportent nos forces de police. Il y aura toujours des individus qui s'éloigneront du droit chemin, et nous prions et espérons qu'ils seront traités de manière appropriée et que la justice prévaudra. Mais, en règle générale, dans la plupart des cas, notre force policière ne va pas s'en prendre à quelqu'un qui est totalement innocent. Nous gardons espoir que ceux qui ont commis un délit, qu'ils soient mineurs ou majeurs, seront traités de manière appropriée. Inutile de dire que l'incident qui s'est produit à Minneapolis est inexcusable. Et voyez ce que cela fait à notre nation. Cela nous déchire. Et tout cela a été causé par un seul homme en présence de trois témoins. Ils nous ont fait payer un prix terrible. Mais cela ne doit pas effacer ce passage de l'Écriture, où il est dit clairement que les magistrats sont là pour maintenir l'ordre dans notre monde. Nous savons qu'il y a des policiers corrompus, mais tous ne le sont pas. Il y en a aussi beaucoup de bons. Et c'est pourquoi Romains 13 dit à propos du policier, Romains 13 verset 4, « Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Cela dit, je pense que personne n'aime payer des impôts, et nous savons pertinemment que ces impôts servent à financer beaucoup de choses que nous ne soutenons pas vraiment. Mais Dieu sait qu'une société doit être organisée. Une société doit avoir une sorte de structure. Sinon, c'est l'anarchie. Et c'est ce que nous observons actuellement. Alors que nous voyons la police rester en retrait sans rien faire, que beaucoup de personnes innocentes sont blessées, que beaucoup d'entreprises sont détruites, même parfois des entreprises appartenant à des groupes minoritaires, que ce soit à Minneapolis ou ailleurs. Les voitures des gens sont détruites et brûlées. Vous savez, l'anarchie, ce n'est pas une bonne chose. Il faut une certaine structure dans la société, et c'est vraiment ce que ce passage nous dit ici. Maintenant, certains membres sincères ont pensé que nous n'exercions pas notre foi en ne tenant pas des services religieux, même si cela irait à l'encontre des réglementations gouvernementales. Ils ont estimé que nous devrions exercer notre foi et faire ce qui leur semblait juste, selon leur compréhension des Écritures. Et je pense que ces personnes étaient certainement des membres sincères. Ils n'essayaient pas de causer des problèmes, mais nous pouvons parfois causer des problèmes sans nous en rendre compte. Nous devons nous serrer les coudes. Nous devons travailler ensemble. Nous devons comprendre que des décisions doivent être prises et nous devons soutenir ces décisions. Certains ont pris comme exemple le psaume 91, un passage des Écritures qui nous est bien familier. Voyons en particulier ces deux premiers versets. Psaume 91, versets 1 et 2. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Évidemment, j'espère que nous avons tous une telle confiance en Dieu. Mais cela signifie-t-il que nous pouvons à présent faire à peu près n'importe quoi, en nous attendant à ce que Dieu nous sauve, comme cela a été souligné à d'autres occasions, lorsque Satan avait tenté Jésus en lui disant de se jeter en bas du temple, que Dieu le préserverait de tout mal. Jésus avait répondu qu'un tel acte ne serait pas conforme à la volonté de Dieu. Vous verrez cela mentionné dans Matthieu chapitre 4, au verset 5 à 7. Et aussi dans Psaume 91, versets 11 et 12. Bon, je comprends que nous n'avons pas ici une situation comparable à celle qui régit la façon d'observer le sabbat, mais le principe est néanmoins le même. Satan est bien capable de tordre les Écritures pour leur faire dire des choses qui sont contraires à la volonté divine. Poursuivons dans Psaume 91, verset 3. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Le fait que Dieu dise qu'il nous délivrera du fléau de la peste fera dire à certains que nous devrions alors nous réunir et tenir des services comme d'habitude. Après tout, n'est-il pas dit ici qu'il nous délivrera de cette peste dangereuse? Eh bien, laissez-moi vous poser cette question. Quelqu'un est-il déjà tombé malade en venant à la fête des tabernacles et en rencontrant d'autres personnes? Est-ce que ce verset dit que nous ne pourrons jamais tomber malades? Est-ce qu'il dit que nous pouvons compter sur cette promesse en tout temps? Ou est-ce qu'il parle d'un moment précis dans le futur? Et quand il est dit qu'il nous délivrera, cela signifie-t-il que nous n'en serons pas affectés d'aucune façon? Poursuivons. Versets 4 à 7. « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. À mon avis, il s'agit là d'une promesse de Dieu qui s'appliquera pour une certaine période de temps. Il s'agit de ce lieu de sécurité où nous serons recueillis à un moment donné. Mais quand il est dit que Dieu nous protégera, cela veut-il dire que nous pourrons aller où nous voulons, faire ce que nous voulons, tout en exigeant qu'il nous protège? Encore une fois, nous célébrons la fête des tabernacles et observons le jour du sabbat, mais vous connaissez tous des gens peut-être vous-même, qui sont tombés malades en célébrant la fête des tabernacles avec d'autres personnes, ou simplement à l'occasion d'une réunion sabbatique locale. Ce à quoi nous sommes confrontés présentement est une maladie qui n'aura probablement pas de conséquences graves pour la plupart des gens, mais, pour certains, cela pourrait leur être fatal. Efforçons-nous donc de faire de notre mieux pour assurer la protection de tous, car c'est là faire preuve d'amour et de sollicitude. C'est aussi pourquoi nous organisons des services en ligne. D'accord, ce n'est pas comme autrefois, avant la pandémie, mais cela nous permet quand même de nous assembler pour adorer Dieu en son jour de sabbat. Au moins, en étant à la maison, cela nous permet de chanter, quoiqu'ici, au studio, nous ayons aussi quelques personnes qui chantent des cantiques. Certaines régions permettent à présent des rassemblements sous certaines conditions. Nous espérons bien sûr que ce confinement cessera un jour, et que les gens feront preuve de sagesse lorsque ce sera le cas. Il faudra alors nous plier à certaines règles, bien sûr. Hébreux 11 donne de nombreux exemples de foi, et celle-ci s'est manifestée de diverses manières. Nous avons le cas d'Abraham, à qui Dieu demanda de quitter son pays. Nous avons l'exemple de Moïse, qui a dû abandonner l'Égypte pour un temps, et qui, à son retour, dut faire confiance à Dieu pendant les fléaux et toutes ces autres choses qui s'y sont produites. Ailleurs, dans Hébreux 11, par exemple au verset 30, nous découvrons des situations qui nous donnent à réfléchir. Voyons-le. Hébreux 11, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. J'ai trouvé cela plutôt intéressant. Je m'avance peut-être un peu ici, mais je me suis toujours posé la question suivante. On le sait, la semaine comporte 7 jours. Alors, s'ils ont encerclé Jéricho pendant 7 jours, ils ont donc dû encercler la ville pendant le jour du sabbat. De plus, et ce n'est là qu'une spéculation car nous ne pouvons pas le prouver sans l'ombre d'un doute, nous croyons que ces événements ont eu lieu pendant les jours des pains sans levain, plus précisément du premier jour des pains sans levain jusqu'au 7e, lorsqu'ils ont fait le tour de la ville 7 fois. C'est lors du 7e jour, quand le peuple se mit à pousser des cris, après avoir encerclé la ville 7 fois, et que les trompettes retentissaient, que les murailles de Jéricho s'écroulèrent. Cela ne vous fait-il pas un peu penser au livre de l'Apocalypse, où il est question de 7 trompettes qui annoncent des fléaux? À noter que c'est au son de la 7e trompette que Christ reviendra. Maintenant, si nous le comprenons bien, cette année-là, ce dernier jour aurait été un sabbat. Certainement un sabbat annuel, si ce n'était pas simultanément le sabbat hebdomadaire. En y réfléchissant, nous devons donc nous rendre à l'évidence qu'il y a, semble-t-il, des situations où Dieu fait des exceptions. Nous ne voulons évidemment pas enfreindre le sabbat de quelque manière que ce soit, mais il y avait manifestement quelque chose de différent ici. Certains ont estimé que, parce que nous ne nous réunissons pas en un même endroit le jour du sabbat, comme il est dit dans Lévitique chapitre 23, nous enfreignons la loi divine. Que dit Lévitique 23, verset 2 ? Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Avoir une sainte convocation, selon eux, implique que l'on vienne à une assemblée. Ainsi, certains se concentreront sur le fait que nous ne sommes pas tous physiquement réunis en un même endroit, alors que pour d'autres, ils voient et comprennent que nous nous rassemblons tout de même. En fait, nous nous rassemblons à l'échelle de la planète, ou presque, et ce sera en ligne, bien sûr. Souvenez-vous, ceux d'entre nous qui sont âgés, du plaisir et de l'inspiration que nous retirions de la fête des tabernacles lorsque, il y a de nombreuses années, M. Armstrong prenait la parole le premier ou le dernier jour de la fête. On faisait alors usage de satellites et de grandes antennes paraboliques pour diffuser de tels messages. Cela nécessitait beaucoup de préparation, et la technologie de l'époque était loin de ce que nous avons aujourd'hui. Mais nous chantions tous les mêmes cantiques, du moins tous ceux qui pouvaient se brancher sur le signal. Nous étions alors 5 000, 7 000, voire 9 000 personnes en un même endroit. Mais même si nous étions dispersés, nous ressentions une certaine unité, parce que nous faisions la même chose et entendions alors le même message. Beaucoup de gens ont pareillement trouvé que cette époque que nous traversons, celle du Covid-19, peut aussi présenter certains avantages. Par exemple, dans certaines régions, grâce à Internet, les membres parlent entre eux avant et après les services et apprennent ainsi à fraterniser et à connaître des gens qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Dans plusieurs congrégations, les gens ont spontanément exprimé leur désir de rendre visite à d'autres avec qui ils ont eu un contact virtuel, afin de fraterniser avec eux sur un plan personnel, du moins dès que la crise de coronavirus sera passée. Notre situation actuelle n'est pas idéale, certes, mais nous voyons qu'il peut tout de même en sortir quelque chose de positif. Certains ont fait remarquer que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme, et, s'appuyant ainsi sur les Écritures, ils voudront que nous nous réunissions à 75 ou 100 personnes dans cette petite salle bondée que nous occupions jadis, avant la pandémie, même si le gouverneur de l'État a décrété qu'on ne devait pas s'y assembler à plus de 10 personnes. Il est évident que nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde, ce qui n'empêche pas les gens d'être sincères. Passons maintenant à Actes chapitre 5. Notons les circonstances que nous rencontrons là et ne sortons pas du contexte. Il y est dit, certes, que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais quel était le contexte ici? Voyons-le au verset 17 et 18. Actes 5, versets 17 et 18. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Notez maintenant qu'un ange de Dieu les a fait sortir de prison et leur a dit de retourner au temple et d'y prêcher l'Évangile. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont donc été libérés par un ange, et le souverain sacrificateur et d'autres sont alors venus en se demandant où ils avaient bien pu aller. Sur ce, verset 25, quelqu'un vint leur dire « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Versets 27 à 29, après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? » En d'autres mots, « Ne prêchez pas au nom du Christ. N'enseignez pas la résurrection. Ne faites pas l'œuvre de Dieu. » Car c'est bien là l'enjeu. Poursuivons. « Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Voilà ce qui était en jeu. Il ne s'agissait pas de simplement décider s'il serait sage de faire quelque chose de différent pour le sabbat pendant une courte période de temps. Dans ce cas-ci, il s'agissait ni plus ni moins d'arrêter toute l'œuvre de Dieu. Mais cela ne s'est pas produit. Nous de même, nous continuons à aller de l'avant. Et je veux à présent vous donner des nouvelles très encourageantes avant la fin de ce sermon, et vous montrer comment Dieu accomplit une grande œuvre à travers nous, et cela, même si beaucoup d'entre nous sont confinés chez eux, obligés de travailler à la maison. Et il y a de bonnes choses qui se passent ici. Violons-nous le sabbat en ne nous réunissant pas en personne toutes les semaines? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire, parce qu'ils vivent trop éloignés. À mes débuts dans l'Église, j'ai d'abord assisté aux assemblées pendant environ un an, puis je suis allé à l'Ambassador College. Après ma première année d'études au collège, j'ai passé l'été à travailler dans l'État d'Oregon, où nous étions à environ 4 heures de route de l'église la plus proche, et les services y débutaient à 9h30 du matin. Oui, il me fallait 4 heures pour me rendre au service. C'était en Oregon, où les gens conduisaient souvent à 160 km/h en rase campagne. Dans l'Ouest, à l'époque, il y avait des endroits où il n'y avait pas vraiment de limite de vitesse. On nous recommandait seulement de conduire prudemment en nous ajustant aux conditions routières. C'était comme ça au Nevada et aussi à certains endroits en Californie. Les choses ont changé depuis. Il me fallait donc rouler 4 heures et ceux qui venaient me chercher devait même rouler 1 heure de plus. C'est aussi pourquoi le ministère nous avait alors conseillé de ne venir qu'une semaine sur deux, en raison de la longueur et de la fatigue du voyage, de son coût et de tout le reste. Il y a eu des moments où nous, les ministres, avons dû donner ce genre d'instructions à certains de nos membres qui vivaient éloignés. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir au service parce qu'ils n'ont aucun moyen de transport. Je me souviens d'une dame qui était à environ 4 heures de route et nous lui avions alors acheté un petit ordinateur. Elle est peut-être à l'écoute en ce moment, qui sait. Oui, elle ne pouvait assister au service qu'une fois par mois. Et encore, quand elle venait, il lui fallait rouler 4 heures en bus et passer la nuit loin de chez elle, ce qui était assez coûteux. C'est pourquoi nous lui avons acheté un ordinateur afin qu'elle puisse profiter de nos services régulièrement. Il y a donc des gens comme ça. Il y a cet autre cas qui me vient à l'esprit. Au Botswana, nous n'avons qu'un seul membre autant que je sache. Cette personne ne vient généralement qu'à l'occasion de la fête des tabernacles, et je l'ai vue là-bas quand j'y suis allé. Mais en dehors de cela, elle ne se présentera que pour des occasions très spéciales. Alors, allons-nous dire qu'il viole le sabbat dans ces circonstances? Pour en revenir à notre situation, à nous qui sommes soumis aux restrictions imposées par le COVID-19, certains pourraient argumenter « Les personnes que vous avez mentionnées ne peuvent peut-être pas venir, mais nous le pouvons. » Oui, nous le pouvons, si nous faisons fi des restrictions gouvernementales et si nous voulons faire preuve de négligence, au dire de certains autres. Vous savez, il n'y a pas longtemps, M. Peter Nathan a écrit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. C'était après que nous ayons commencé à avoir des services en ligne. Il a dit, « Quant à cette croyance qu'il nous faut à tout prix avoir des réunions en personne, que c'est là ce que Dieu requiert, nous devons nous rappeler qu'il se présentait parfois des situations où une personne ne pouvait pas se rendre au tabernacle ou au temple pour adorer Dieu. Par exemple, si une personne se trouvait hors du camp pour cause de maladie, elle y était parce que c'est là ce que l'Éternel lui imposait. Cette personne ne pouvait donc pas se présenter devant lui avant qu'elle ne soit guérie. On dira, d'accord, on comprend cela. Après tout, la personne était malade. Mais que penser d'une femme dans son cycle mensuel? Elle ne pouvait pas non plus se présenter. Eh bien, il en était ainsi en vertu de toutes les prescriptions et de tous les règlements de la loi de Moïse, laquelle comportait quantité de rituels physiques qui étaient imposés à la nation, des choses à faire ou à ne pas faire, des choses que nous n'observons plus aujourd'hui. Nous comprenons cela. Nous ne pratiquons plus cela aujourd'hui, mais à l'époque, on le faisait. Donc, lorsqu'une femme était dans son cycle mensuel, elle ne pouvait pas participer au culte en personne. Il y a ainsi eu des moments où l'Éternel a décrété que la situation de santé d'une personne devait primer sur les directives concernant l'assistance aux assemblées. Cela dit, à l'heure actuelle, notre priorité en matière de santé, c'est que nous ne savons pas qui est malade et qui ne l'est pas. Selon certains rapports, environ 80% des gens affectés par le COVID-19 sont asymptomatiques. Il nous faut donc composer avec cela. J'aimerais à présent lire un extrait du Lévitique chapitre 12. Et de grâce, comprenez bien que je n'essaie pas de rabaisser ceux qui n'ont pas immédiatement approuvé les décisions prises par l'Église et le Conseil des anciens. Je sais que nous avons tous des manières différentes de voir certaines choses. Nous ne pensons pas tous immédiatement de la même façon à propos de tout. Mais il nous faudra bien parvenir à un consensus. Mon intention est de nous aider à y parvenir, en exposant ces idées qui ont surgi durant l'assemblée du Conseil. Dans Lévitique chapitre 12, nous n'avons pas une situation où quelqu'un aurait pu être contagieux en raison d'une maladie quelconque. Le verset 1 précise que c'est Dieu qui a donné cette instruction à Moïse. Voyons-le. Lévitique 12, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang, un total de 40 jours donc. Elle ne touchera aucune chose sainte, et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Elle devait donc rester éloignée du sanctuaire pendant une période de 40 jours, plus d'un mois donc, et Selon le moment de la naissance, cela pouvait facilement correspondre à 6 sabbats. Le verset suivant nous apprend que si cette femme accouchait d'une fille, elle ne pourrait pas se présenter au temple pendant 80 jours. Cela fait 2 mois et 20 jours, presque 3 mois. Était-elle contagieuse durant ce temps-là? Bon, je ne connais pas toutes les raisons qui ont motivé Dieu à décréter cela, et j'ignore si quelqu'un d'autre le saurait. Mais le fait est qu'il l'a fait. À l'époque, c'est ce qui se pratiquait, et nous encourageons certainement nos mères à rester à l'écart pendant un certain temps après qu'elles auront accouché. On n'insistera pas pour qu'elles se conforment aux directives d'autrefois, celles qui ont rapport au cycle menstruel ou diverses autres choses. Notez que tout cela semblait viser la mère plus que l'enfant. Il y avait donc des situations où elle devait rester éloignée du sanctuaire pendant une période de temps assez longue, pouvant parfois s'étendre sur 80 jours et même plus, dépendamment de la façon dont ces 80 jours tombaient. Et qu'en est-il de ce concept d'obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme qu'on a mentionné précédemment? Nous en avons examiné le contexte. Alors, abordons le sujet de la foi. Penchons-nous sur ce qu'est la foi, car c'est certainement un sujet important, et nous exerçons notre foi de plusieurs manières. Beaucoup d'entre vous ont exercé leur foi lorsque vous avez dit « Je vais observer le sabbat, quelle que soit la conséquence sur mon emploi ». Vous êtes donc allé voir votre patron et lui avez dit « Désormais, je ne travaillerai plus du coucher de soleil du vendredi soir jusqu'au coucher de soleil du samedi. » Il est préférable de dire « Je ne vais pas travailler » plutôt que de dire « Je ne peux pas travailler à cause de mon église ». Par là, vous exprimez votre intention de ne pas le faire, car c'est ce que vous croyez selon les enseignements de la Bible. C'est là votre décision personnelle. Cela dit, certains d'entre vous ont perdu leur emploi à cause de cela. Certains ont vu leur mariage se briser parce que leur conjoint a réagi en disant « Je n'aime pas ta religion et tu devras choisir entre moi et ta nouvelle religion ». Nous aurons à exercer notre foi de plusieurs manières. Ainsi, je me souviens que celui qui m'avait introduit à la vérité était parti observer la fête des tabernacles. Il vivait encore chez ses parents, moi pas. Pour ma part, j'avais quitté le domicile paternel à ce moment-là. Oh, pas pour longtemps, juste pour quelques semaines. Et nous avons célébré la fête des tabernacles ensemble, cette année-là. Vivant à la maison, son père lui avait dit « Écoute, si tu vas à cette fête, voici ton héritage, $50. Je vais te donner $50 et ne remets pas les pieds ici. » Eh bien, il est allé à la fête. Il a observé la fête. Vous savez, cela a requis un certain niveau de foi de sa part. Ce n'était peut-être pas une foi durable, mais c'était alors un acte de foi. Nous devons exercer notre foi. Venir ici au studio demande aussi un peu de foi, parce que nous n'y sommes pas seuls. Il y a d'autres personnes. Je ne crois pas que ces personnes soient malades, mais on ne sait jamais. Je pourrais peut-être transmettre quelque chose à l'un d'entre eux, quelqu'un qui serait venu ici en exerçant sa foi. Nous avons des gens qui travaillent au bureau par nécessité. Ainsi, M. Matterly, qui a fait la prière d'ouverture, travaille à notre service de traitement du courrier. Et si vous recevez de la littérature de notre part, il y a de fortes chances qu'elle soit passée par ses mains. Faites attention, il pourrait l'avoir contaminée. Non, je plaisante bien sûr. Nous utilisons des machines pour ce genre d'opération. Et puis, il y a un certain nombre d'autres personnes qui travaillent ici, car nous continuons à faire des émissions de télévision. Et c'est ici qu'il nous faut le faire. Nous devons donc tous exercer notre foi, et cela dans beaucoup de circonstances et de diverses manières. À mon avis, il est donc faux de dire que les gens n'exercent pas leur foi parce que nous percevons certaines choses différemment de la perception que d'autres pourraient en avoir. Est-ce que cela dénote un manque de foi de notre part, quand nous prenons des précautions, quand nous encourons des dangers? Eh bien, considérons Actes chapitre 8, où il n'est pas question du sabbat, mais d'une situation qui aurait pu faire dire à certains que ces gens étaient des lâches, car ils se sont enfuis alors qu'ils auraient dû tenir bon. L'incident mentionné au verset 2 s'est produit après la mort d'Étienne, lequel avait exercé sa foi et s'était levé à un moment donné quand son intervention devenait nécessaire. Il avait alors prêché la vérité et était mort en martyr. Certains auraient pu alors le traiter de fou, mais je ne pense pas qu'il était fou. Il n'a fait qu'accomplir ce que Dieu attendait de lui. Dieu avait prévu que certains s'offrent en martyr de cette manière. Et Dieu avait ici une autre chose en tête. Voyez-vous, il faut savoir que l'Église se trouvait principalement à Jérusalem. Et Saul, qui fit plus tard changer son nom en Paul, ravageait alors l'Église. Voyons le Actes 8, verset 2. « Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voilà ce qu'il fit avec certains d'entre eux. Mais quelle fut la réaction d'autres membres lorsqu'ils virent cela ? Verset 4. « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Et c'est ainsi que la parole s'est répandue à partir de là. Ils se mirent donc à prêcher la parole d'une manière différente. Autrement dit, pas dans leur maison. Ils ont vu ce qui se passait, ils ont vu le danger, et ils ont fui la ville. Ils ont reconnu qu'il y avait un temps pour agir, et un temps pour fuir le danger. Un temps pour être prudent, et reconnaître le danger de la situation. Notez aussi Actes chapitre 12, verset 19. C'est ici que Pierre est mis en prison, après que Jacques ait été mis à mort par Hérode. Et nous le voyons qui est libéré de la prison par cet ange et qui se rend aussitôt auprès des siens. Actes chapitre 12, verset 19. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite il descendit, il s'agit de Pierre, de la Judée à Césarée pour y séjourner. Autrement dit, il a d'abord rendu visite aux siens, puis il a quitté la ville. Maintenant, il aurait pu là encore retourner au temple, comme il l'avait fait auparavant, et comme Dieu le lui avait ordonné. Mais cette fois, Dieu ne lui avait pas ordonné de le faire. Cette fois, il a quitté la ville. Il a vu le danger qui l'attendait, et il en a conclu qu'il valait mieux fuir cette fois que de tenir bon. Allons aussi à Actes chapitre 17. Pierre et Paul étaient des hommes de grande foi, et ils ont mis leur vie en jeu à maintes reprises. Mais nous verrons qu'ils ont su faire preuve de prudence pour sortir de la ville lorsqu'ils voyaient le danger qui les guettait. Au verset 10, nous lisons, Actes 17, verset 10, « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. C'était parce qu'ils y étaient menacés. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ils y allèrent et se mirent à prêcher. » Verset 13. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ainsi donc, ceux qui auraient pu être victimes de violences quittèrent la ville. Il viendra donc un temps pour tenir bon et s'affirmer. Et j'espère que chacun de nous le fera. Si nous sommes traînés devant un tribunal, ou encore devant des caméras de télévision, j'espère que nous resterons fermes et que nous ne manquerons pas de dire la vérité. Il nous faudra faire preuve de sagesse en pareilles circonstances. Mais, simultanément, nous devrons rester fermes et ne pas nous cacher de la vérité. Parfois les gens vont dire la vérité, et c'est le cas de beaucoup de politiciens. Ils diront la vérité à propos de quelque chose, puis la presse s'en prendra à eux et ils se rétracteront. Nous ne pouvons pas agir ainsi, frères et sœurs. Nous devrons défendre la vérité quand le moment sera venu, et nous aimerions si possible, rester en vie jusqu'à ce que cette occasion se présente. Beaucoup de nos frères sont maintenant en danger. Le fait de penser que nous ne pourrions pas tomber malades lorsque nous nous réunissons pour le sabbat ou à l'occasion de la fête n'est pas corroboré par notre vécu en tant qu'Église. Le fait est que les gens tombent malades lors des services. Ils tombent malades à la fête. De même, chaque année, après le week-end familial, nous avons une éclosion de maladies ici au quartier général, parce que quelqu'un est venu, porteur d'une maladie, qu'il a ensuite transmise à plusieurs autres. C'est la réalité. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde imaginaire. Il nous faut voir les choses en face. La foi s'exerce donc de différentes manières. Nous avons l'exemple de David, qui a tué Goliath, et qui a pourtant fui Saül. Notez aussi cet autre exemple, toujours avec David. Il se trouve dans 1 Samuel chapitre 21, verset 10. 1 Samuel 21, verset 10. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant, « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ?» David se rend alors compte que les choses prennent une tournure qu'il n'avait pas prévue. Il avait pensé pouvoir se rendre à Gath dans l'anonymat pour y mener une vie tranquille. Verset 12. David prit à cœur ces paroles. Notez qu'il fait ici preuve de sagesse. Et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Incroyable. Voici un homme qui a tué un géant, un lion et un ours, certains même à plusieurs reprises. Et le voilà qui a peur de Saül et d'Achish, le roi de Gath. Il lui a donc fallu faire usage d'un peu de sagesse. Voyez comment. Verset 13. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Autrement dit, il a alors feint la folie. David est ici confronté à deux ou trois problèmes. Premièrement, étant à Gath, il ne pourra pas observer le sabbat comme il le ferait normalement s'il était parmi les Israélites. Deuxièmement, étant inquiet à cause de la situation dans laquelle il se trouve, il va devoir faire preuve de sagesse. Il ne se lèvera donc pas avec l'intention de les combattre, car il reconnaît qu'il y a un temps pour toute chose. Lorsque quelqu'un défiait les armées de Dieu, il était prêt à se lever pour combattre, mais il refusait de s'élever contre Saül, loin de Dieu, et il craignait Achish sur son propre territoire. Tournons-nous maintenant vers Ésaïe chapitre 26. Même si ce passage se réfère plutôt à une époque future, il y a quand même ici un principe que nous pouvons retenir. Remarquons le verset 19. Ésaïe 26, verset 19. « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. » Il s'agit donc bien ici d'un temps encore à venir, de la résurrection. Mais ici, il est aussi question d'un temps qui va la précéder, la résurrection, comme nous le voyons en lisant le verset 20. « Va, mon peuple, entre dans ta chambre. » Et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Là encore, il est question d'un événement à venir. Il pourrait très bien s'agir d'un lieu de refuge, ou de quelque endroit de ce genre. Et nous croyons qu'un tel endroit existera, même s'il se peut que certains d'entre nous n'y soient pas, pour une raison ou pour une autre. On nous donne donc le conseil de nous cacher, jusqu'à ce que la colère soit passée. Verset 21, « Car voici... L'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. » Il est question ici du jour du Seigneur. Ainsi, il y a un temps pour se cacher. il y a un temps pour se montrer prudent. Cela dit, avons-nous foi en Jésus comme étant le chef de l'Église? Le reconnaissons-nous vraiment? Vous savez, il y a des décisions qui sont des décisions personnelles. Laissez-moi vous donner un exemple de décision personnelle. Vous êtes assis là, en train de suivre ce service religieux. Et il se peut que quelqu'un d'autre soit là avec vous, peut-être une autre famille, ou peut-être même deux familles. Il faut espérer que vous vous serez limité à un petit groupe, car la plupart d'entre nous n'avons pas de maison assez grande pour pouvoir offrir une protection suffisante dans un endroit restreint, car tout le monde doit respirer le même air. C'est probablement là le plus grand danger que nous courons. C'est ce que les experts semblent vouloir nous dire ces jours-ci, bien qu'ils soient loin d'être unanimes sur beaucoup de points quand il s'agit de parler de protection à l'égard de ce virus. Il y a cependant certaines choses sur lesquelles ils s'entendent, à savoir que le fait de respirer le même air dans un espace restreint, de parler fort ou de chanter, cela peut créer des problèmes. C'est là un choix personnel que vous faites lorsque vous vous réunissez avec une autre famille dans votre maison, et nous ne le décourageons pas. Vous pouvez bien sûr vous réunir en petits groupes pour écouter les services en ligne en notant que vous respectiez les directives que la plupart des États ont émises, à savoir de ne pas dépasser un certain nombre de personnes, un nombre qui peut varier avec le temps et selon les endroits. Il se peut aussi que plusieurs personnes veuillent se réunir après les services pour dîner et fraterniser. C'est là une décision personnelle. Par contre, lorsque nous louons une salle et que nous disons aux gens de venir, cela devient alors une décision de l'Église. Or, ce sont les sacrificateurs et les Lévites qui devaient prendre ces décisions dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous, dans Nombre 10, ils devaient fabriquer deux trompettes d'argent, et ces trompettes d'argent devaient servir à convoquer les gens aux assemblées et à annoncer les jours saints. Qui devait sonner ces trompettes? Quelqu'un pouvait-il simplement entrer, prendre une trompette et en jouer? Bien sûr que non. Il y avait des règles à respecter. C'était les sacrificateurs, les fils d'Aaron, qui devaient faire retentir ces trompettes. Dans Lévitique chapitre 23, qui devait annoncer les saintes convocations à l'occasion des jours qu'on devait observer? Ces proclamations émanaient de Moïse et d'Aaron. C'était donc le sacerdoce qui devait proclamer ces jours spéciaux. Demain, nous célébrerons le jour de la Pentecôte. Et dans Actes chapitre 2, il est dit clairement que tous les fidèles s'étaient alors assemblés d'un commun accord et en un même lieu. Voyez-le dans Actes chapitre 2, où on nous parle du Saint-Esprit qui fut alors distribué parmi les disciples qui étaient présents. Évidemment, il n'y avait pas de COVID-19 alors. J'espère que demain, nous serons aussi assemblés en harmonie et animés d'un même esprit pour adorer ensemble. Il ne nous sera pas possible d'être tous en un même lieu. Mais pareille chose n'est pas possible lorsqu'on a des membres dispersés aux quatre coins du monde. La Pentecôte, tout particulièrement, a fait l'objet de beaucoup de controverses quant au jour où elle devait être observée. Certains vont l'observer un lundi, comme nous l'avons fait nous-mêmes pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que M. Armstrong se rende compte qu'il s'était trompé dans sa façon de compter les jours menant à elle. Mais certains n'ont pas accepté ce changement. Selon eux, il fallait que la Pentecôte tombe un lundi. Et puis, il y en a qui observeront la Pentecôte une semaine plus tard que les autres, à certaines années. Chacun adopte une façon différente de compter, même si tous prétendent se baser sur les Écritures. Il y a ainsi beaucoup de Juifs qui pensent qu'on devrait débuter le comptage le premier jour des pains sans levain, pour finalement aboutir au sixième jour de Sivan. Et puis, il y a quelques Juifs qui comptent à partir du dernier jour des pains sans levain. Il y a donc différentes façons de compter. Et Dieu a permis qu'il y ait une certaine ambiguïté à ce sujet. Je pense cependant que nous pouvons prouver très clairement à quel moment cela devrait être. Et Josué 5 nous aide beaucoup en cela. Oui, les gens peuvent avoir des opinions bien différentes. Comment résoudre ces problèmes qui sont dus au fait que des personnes sincères vont parfois avoir des idées différentes sur certains points? Eh bien, à l'époque de l'Ancien Testament, c'était au sacrificateur qu'il revenait de sonner de la trompette. C'était le sacerdoce qui devait résoudre les problèmes. Mais qu'en est-il sous le Nouveau Testament. Qui est censé prendre les décisions? Pour le savoir, rendons-nous à Éphésiens chapitre 1, verset 22. Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Il s'agit de Dieu le Père, a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, parlant de Jésus-Christ, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, quand les gens veulent savoir qui est la tête de notre Église, ce n'est pas M. Armstrong, ce n'est pas Dr. Meredith, ce n'est pas moi ou quiconque pourrait venir après moi. C'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. On va parfois parler de la tête physique, mais, en fin de compte, comprenons que c'est Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Et lorsque, mû par la foi, nous prions Dieu pour qu'il inspire son Fils à prendre les décisions qui s'imposent, et ce sont parfois des décisions difficiles, où la compréhension humaine ne nous permet pas de voir clair. Alors, nous devons croire que Dieu prendra ses décisions pour nous, que Christ est le chef de l'Église. Permettez-moi ici de vous citer une anecdote. Je sais que cela a été mentionné plusieurs fois dans le passé. Dr. Douglas Winnell s'était vu confier la charge d'écrire une brochure au sujet des principes bibliques gouvernant la santé. Quand cela a-t-il été mentionné pour la première fois? Je ne saurais vous le dire. Il y a peut-être 10 ans de cela. Faudrait le demander à Dr. Winnell lui-même. Oh, il s'était bien attelé à la tâche alors. Mais bientôt, il s'est rendu compte, alors que le temps passait, que ses données statistiques méritaient d'être rafraîchies. Et il s'est alors mis à réécrire le tout. Alors que le projet aboutissait, voilà que le monde se trouvait plongé dans cette pandémie. Pouvait-il y avoir un meilleur moment pour offrir une telle brochure? Pensez-vous que Christ n'était pas impliqué dans toute cette planification? N'était-il pas au courant de ce qui allait bientôt déferler sur le monde? N'a-t-il pas sciemment manipulé les circonstances afin que cette brochure soit finalement publiée juste au bon moment pour avoir un impact maximum? Et ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Quand je suis arrivé pour prendre mon poste ici à Charlotte, je me souviens de cette remarque de M. Wakefield qui disait « Plus vous êtes ici, plus vous voyez la main de Dieu à l'œuvre. » C'est vrai, plus je suis ici à Charlotte et plus je vois la main de Dieu à l'œuvre. Je le vois dans ce qui s'accomplit ici parmi nous. Je le vois aussi lorsque je regarde en arrière et que je pense aux décisions que j'ai prises personnellement. Manifestement, Dieu a dû être impliqué dans tout cela. Vous savez, le fait de vivre à Mississauga dans la banlieue de Toronto durant l'épidémie de SRAS, et c'était assurément une grosse affaire au Canada, surtout à Toronto, même si le nombre de cas fut très faible lorsqu'on fait la comparaison avec la présente pandémie. Néanmoins, ce fut mon expérience de l'épidémie de SRAS dans la région de Toronto qui m'amena à approfondir le sujet du SRAS. C'est ce qui m'a poussé à faire ce que je crois avoir été la première émission télévisée de l'Église sur les viandes pures et impures. L'Église n'avait jamais auparavant abordé ce sujet dans une émission télévisée, et cela parce que nous ne considérions pas ceci comme devant faire partie de l'Évangile. Plus tard, lorsque je me suis rendu à Charlotte, j'ai fait une émission similaire, mais cette fois-ci sur Ebola, une maladie dont l'origine est similaire au SRAS. C'est intéressant car, lorsque cette pandémie de COVID-19 nous est arrivée, je me sentais prêt à donner une émission télévisée sur ce sujet, émission qui, entre parenthèses, a suscité la plus grande réponse depuis plusieurs années. En fait, plus de 6000 réponses. Je ne sais pas exactement quelle est la moyenne de nos réponses, mais parfois, nous sommes dans les 2000, voire 3000, et il nous arrive même exceptionnellement de dépasser 4000. Ce n'est pas parce que j'aurais là accompli une performance sublime. Je crois plutôt que c'était un sujet pour lequel j'avais été bien préparé. Et vous savez, j'ai noté au cours de ma vie comment Dieu me prépare pour certaines choses et comment Dieu travaille avec chaque individu sur une base individuelle. Ainsi, ne lit-on pas dans Psaume 33, verset 15, « Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Oui, Dieu façonne votre cœur, votre esprit et les talents que vous avez. Il vous façonne individuellement et cela devrait être incroyablement encourageant pour vous de savoir que Dieu vous connaît, qu'il vous a appelé, qu'il travaille avec vous et qu'il travaille avec son Église et que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Nous allons aussi lire Colossiens chapitre 2 au verset 16 et 17, un passage de l'Écriture qui a été terriblement déformé par le monde. Mais voyons d'abord ce que dit Colossiens chapitre 1 verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voyons aussi la fin du verset 24 qui dit « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Tout cela indique donc clairement que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Voyons également Colossiens chapitre 2 verset 10, où il est confirmé une fois de plus que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Vous avez tout pleinement en lui, Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et voilà où nous voulions en venir. Cela commence au verset 16, un passage très controversé. Colossiens 2, versets 16 et 17. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » On devrait lire « Que personne ne vous juge à propos des choses mentionnées précédemment, lesquelles préfigurent des choses à venir, si ce n'est le corps de Christ, à savoir l'Église. » Voilà à qui il revient de déterminer ces choses, à qui il revient de vous montrer ce qu'il convient de manger et de boire, comment célébrer un jour saint, comment conduire un service sabbatique et toutes ces autres choses. C'est à Christ que tout cela revient, à Christ, la tête de l'Église. C'est lui qui doit nous guider et nous diriger. Il est important de connaître et d'obéir à ceux qui travaillent parmi vous. 1 Thessaloniciens 5, verset 12 nous dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 12, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » À nouveau, connaissons ceux qui sont au-dessus de nous. Frères et sœurs, j'espère que vous m'avez assez vu pour savoir que je ne vais pas vous égarer comme cela s'est produit dans l'Église universelle. J'espère que vous êtes convaincus que Dr. Winner, M. Ames et tous nos dirigeants, M. Vahovitz, M. Nathan et Rob Tyler, ne feront pas prendre à l'Église une mauvaise direction. Cela dit, vous pourriez être en désaccord avec certaines de nos décisions, mais nous n'enseignerons jamais que vous pouvez substituer le dimanche au sabbat ou des choses de ce genre. J'espère que vous nous connaissez suffisamment pour ne pas en douter. C'est là une responsabilité qui vous incombe, d'apprendre à nous connaître. Et vous y parviendrez en écoutant ce que nous disons, en observant ce que nous faisons, en particulier les vidéos que nous produisons. Nous espérons que vous regardez celles-ci. Nous espérons que vous lisez les articles des magazines, que vous rechercherez et écouterez les sermons que vous avez manqués. En faisant ces choses, vous connaîtrez ceux qui travaillent ici, et vous reconnaîtrez que Christ est celui qui prend les décisions finales au sujet de toutes choses. De nombreuses décisions vont encore devoir être prises, notamment les décisions concernant la fête. Et puis, il y aura à l'avenir des décisions encore plus importantes et encore plus difficiles à prendre. Je ne sais pas quelles seront ces décisions, mais je suis absolument certain qu'il y aura encore des décisions plus importantes et plus difficiles qui devront être prises par l'Église. Mais nous avons confiance qu'en adressant des prières à Dieu et à Jésus-Christ, ils nous montreront la voie à suivre. Christ guidera l'Église parce que le Père a mis cela sous son contrôle. Nous vivons à l'époque de la démocratie, et les médias ne cessent de nous le rappeler. On entendra dire « Personne ne va me dire quoi faire. J'ai le droit de m'exprimer. » Frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Le monde nous influence, vraiment. Je peux le voir en moi-même. J'espère que vous pouvez le voir vous aussi, et j'espère que nous ne lui succomberons pas. Il nous faudra parfois nous arrêter et nous poser la question, « Un instant, est-ce que je m'écarte du droit chemin ici? Est-ce que je n'entretiens pas de mauvaises pensées? » J'espère que nous pourrons le faire. Je voudrais vous encourager à lire la Bible pour constater où mène cette attitude qui consiste à dire « Personne ne me dira quoi faire ». Tant de passages à propos de l'ancien Israël et nombre de prophéties sur l'avenir d'Israël parlent de gens qui se laissent guider par leur propre cœur. Or, Dieu ne mâche pas ses mots lorsqu'il nous dit que notre cœur est mauvais. Vous connaissez tous Jérémie 17, verset 9, qui affirme que « le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Il nous faut effectivement le reconnaître. Prendre des décisions représente un défi non pas quand tout est clair et évident pour tout le monde, mais quand ce ne l'est pas. Il est particulièrement difficile de rendre des jugements lorsque rien n'est clair pour tout le monde. D'autant plus que tout le monde n'est généralement pas sur la même longueur d'onde. Et pourtant, il faudra bien que quelqu'un prenne une décision. Et c'est pourquoi nous avons des gouvernements dans le monde. Et c'est pourquoi nous avons un gouvernement dans l'Église. Parce qu'il faut parfois prendre des décisions qui peuvent être impopulaires, tout en étant de bonnes décisions. Finalement, frères et sœurs, laissez-moi vous dire que Dieu bénit son Église. Nous avons de nouvelles personnes qui arrivent. Et il y a sans doute de nouvelles personnes qui écoutent ce sermon aujourd'hui. Nous entendons de plusieurs sources que de nouvelles personnes nous arrivent. Après quelques contacts, elles veulent souvent venir à l'Église. Ce sont peut-être des personnes qui étaient parties et qui ont décidé de revenir, à moins que ce ne soit de toutes nouvelles personnes. Nous avons l'exemple de cette personne intéressée de Melbourne, en Australie, qui a laissé le commentaire suivant sur nos réseaux sociaux, où elle dit « J'aimerais faire partie de votre Église ». Mais je vis à Melbourne. Eh bien, nous avons une église là-bas, et je suis sûr que nous avons entre-temps contacté cette personne. Peut-être même que cette personne nous écoute aujourd'hui. Ou peut-être qu'elle a besoin d'étudier un peu plus. Nous ne savons pas. Mais le fait est que les gens viennent. Laissez-moi vous lire quelque chose qui vient d'une source au Royaume-Uni, The Tablet. Elle dit, à propos de l'Église catholique, que les diocèses et les paroisses ont vu leurs revenus chuter, ce qui entraîne des pertes d'emplois et la fermeture de certaines institutions. Ainsi, même l'Église catholique est en difficulté financière avec cette crise de COVID-19. Ce n'est pas du tout notre cas. Le mois dernier, en écrivant ma lettre à nos co-ouvriers, j'avais demandé aux personnes qui le pouvaient de donner un peu plus qu'à l'habitude. Quant à ceux dont les moyens étaient limités, je leur demandais de prier davantage. Eh bien, Dieu nous a bénis le mois dernier, un mois qui s'avéra être le meilleur de l'année jusqu'à ce jour. Et ce mois-ci est également bien parti. Nos revenus ont augmenté et nous avons dépassé nos prévisions budgétaires en janvier et février. Il est vrai que nous avons un peu diminué en mars, mais en avril et en mai, nos revenus ont augmenté à nouveau. Il en est ainsi grâce à la fidélité du peuple de Dieu. Et cela résulte aussi d'un exercice de foi. Lorsque vous payez fidèlement votre dîme, lorsque vous donnez ce supplément, si vous en êtes capable, c'est un exercice de foi. Mon intention en disant cela, ce n'est pas de vous tordre le bras pour que vous donniez plus. C'est aussi pourquoi je ne voulais pas que cette enveloppe soit ajoutée à ma lettre. Mais, hélas, je crois qu'environ 5000 d'entre elles avaient déjà été postées lorsque j'y ai pensé. J'y avais pensé et puis je l'ai oublié. Et quand j'y ai pensé de nouveau, il était trop tard. 5000 avaient déjà été envoyés. Je veux que les gens sachent que nous sommes reconnaissants des efforts qui ont été déployés par tout le monde. Et vos prières font une énorme différence. Parce que, parfois, votre prière peut être ce qui pousse quelqu'un, qui est dans l'abondance, à donner un peu plus. Donc, je vous remercie sincèrement pour votre soutien. Et je sais qu'à l'avenir, Dieu continuera à nous bénir de cette manière. Nous n'avons pas moins de 91 000 abonnés à notre chaîne YouTube Tomorrow's World. Ce sont là les gens qui indiquent leur intention d'en savoir plus, et cela les pousse à vouloir s'abonner. Beaucoup de gens vont regarder une vidéo, mais ils ne s'abonneront pas. Ainsi, 91 000 personnes nous ont signifié qu'elles en voulaient plus. Ce nombre est évidemment bien supérieur au nombre de membres que nous avons dans l'Église. Cela dit, la chaîne YouTube en espagnol nous a époustouflés avec ses plus de 310 000 abonnés à nos émissions. Même la chaîne francophone de YouTube a plus de 22 000 abonnés. C'est merveilleux et nous en sommes ravis. Quant à la chaîne Tomorrow's World Viewpoint, qui est un produit commercialisé au Canada, elle en compte plus de 18 600. Plusieurs de nos émissions ont été visionnées plus d'un million de fois. Une l'a été 2 millions de fois et une autre même 3 millions de fois. Précisons que ces chiffres combinent les visionnements en espagnol et en anglais. Je trouve très intéressant et simultanément très encourageant que l'émission de M. Richard Ames, Who Changed the Sabbath to Sunday, qui a opéré la transition du sabbat au dimanche, ait été visionnée plus de 91 000 fois en espagnol et environ 45 000 fois en anglais. Nous allons très probablement franchir le seuil du million d'ici un mois ou deux. Notez que c'est un sujet incroyablement important, le fait que le sabbat ait été remplacé par le dimanche. On peut peut-être s'attendre à avoir 1 ou 2 millions de visionnements pour un thème prophétique. Mais quand vous avez un sujet comme celui-ci qui explique comment on est passé du sabbat de Dieu au dimanche, c'est quelque chose. Et nous aimons ça. J'aimerais conclure en vous lisant un extrait des nouvelles récentes qui nous sont parvenues de notre bureau en Australie. M. Rob Tyler y écrit « La seule chose remarquable que j'ai remarquée à travers tout cela, il parle de la situation causée par le COVID-19, c'est cet amour et cette pensée rationnelle exprimée par le peuple de Dieu. Cela ne devrait pas être surprenant, mais dans un monde qui semble être en proie à la peur, à l'inquiétude et à l'anxiété, où de nombreux individus souffrent de dépression et ont des pensées suicidaires, le peuple de Dieu se démarque nettement. Pourquoi? Il y a un certain nombre de raisons à cela, mais je pense que les deux principales sont les suivantes. Premièrement, nous connaissons l'avenir tel qu'il est révélé dans la prophétie biblique. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Selon 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Le peuple de Dieu affiche également une paix inhabituelle. Cela aussi est remarquable, compte tenu de tout ce qui se passe autour de nous. Mais la parole de Dieu n'enseigne-t-elle pas que cette paix résulte de notre obéissance à Dieu? En effet, psaume 119, verset 165 confirme « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » En vérité, frères et sœurs, alors que le monde persiste à rester dans l'ignorance et que le compte à rebours pour le retour de Christ est en train de s'achever, nous avons tous l'occasion d'être de merveilleux exemples pour nos amis et notre famille. Laissons donc briller notre lumière durant cette pandémie. Et lorsque les gens vous demanderont comment vous pouvez rester si positif à une époque comme celle-ci, considérez cela comme une parfaite occasion de partager avec eux l'espoir qui est en nous, comme il est dit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Frères et sœurs, il y a de l'espoir. Nous voyons le retour du Christ se rapprocher de nous. Restons forts en ces temps difficiles et restons unis en projetant nos regards vers Christ, le chef de l'Église.